Radio Campus Lille, il est 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Non mais dès que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
rue. Dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Pourquoi le pâte de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus pas rouges, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
C'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, mais je vais tomber en panne de pause. J'ai dit tant que vous ne prenez pas. C'est quand même curieux, alors. Sans quoi, j'ai dit. Jamais, je vais en panne.
Merde, mon an, merde.
Avec un lait du poil, avec un lait du poil.
Oh, coco, 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 bah, ah, ah, gabou. Yeah, ooh, 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 screw, ooh, ooh, baka, baka, boo.
Aujourd'hui, mercredi 22 juin 2022, c'est la Saint Tote Bag. Saint Tote Bag est le saint patron des sacs réutilisables en toile souple, généralement 100% coton, mais dans l'idéal 100% coton équitable, bio et responsable pour le bien de la planète, de l'environnement et des générations futures, et dans lesquels on peut fourrer en vrac toutes les saloperies inutiles, cosmétiques et électroniques, produites dans des conditions qui ne permettent de préserver ni la planète, ni l'environnement, ni les générations futures ou actuelles. Non, Saint Tote Bag, ce n'est pas seulement un accessoire de mode que vous pouvez porter pour être en toute occasion chic et responsable. Non, Saint Tote Bag, ce n'est pas qu'un sac en étoffe qui s'accorde avec tous les looks pour être à tout moment élégante et équitable. Non, Saint Tote Bag, c'est d'abord l'occasion d'affirmer à la face du monde vos valeurs. Et pas seulement ce sac appartient à une femme géniale. C'est afficher en toute fierté, imprimé sur un sac en toile, votre moi profond. Et pas seulement métro boulot morito. Ou pas un radis pour l'agro-industrie dans le sac dans lequel vous allez fourrer ensuite votre McDo. Non, Saint Tote Bag, c'est tout autre chose. Et... Et l'équipe de l'heure de le mettre est particulièrement fière de vous présenter et de canoniser en ce début d'été 2022 Saint Tote Bag et sa toute nouvelle collection personnalisée adaptée à toutes et tous. Dans notre boutique, vous ne trouverez plus certains sacs qui ne sont plus fabriqués à cause des messages jugés vraiment trop violents qu'ils contenaient, comme le Saint Tote Bag Blanquer, Ibiza c'est sympa et j'y retourne, les sacs Montchalin, le point d'indice sera dégelé avant l'été et notre ennemi ce n'est pas la finance, ni les sacs Castaner que fait la police sacrée. crève les yeux, ou le fameux il reste des glaçons, sans oublier bien sûr ceux que vous ne reverrez plus, les sacs que vous ne reverrez plus, les sacs, les tote bags Pietraszewski, Marachineanu, Ferrand, Valls, Lagarde, Ausson, Bourguignon, tous jetés à la poubelle pour le bien commun. Vous trouverez en revanche la série de Saint-Aude-Bac Renaissance en marche, et selon votre humeur et votre tenue, bien sûr, vous pourrez porter l'élégant « C'est notre projet !» ou le « Je traverse la rue et je vous en trouve, moi ». Il y a également la série des Saint-Aude-Bac Gérald, qui fait un tabac à Tourcoing, entre le sac « Allez, juste un verre », le sac « J'ai rien fait, monsieur le juge, je suis juste tombé sur elle, la bite la première », mais en même temps, elle le voulait vraiment, cet appart. Et le sac « Je vous trouve un peu molle », un vrai succès, celui-là. Et il y a toute la collection de Saint-Aude-Bac Nupes, avec le sac Mélenchon, la République c'est moi ! Le sac Les Verts, je suce pour un poste de ministre de gauche s'abstenir, ainsi que le tout nouveau catalogue Fabien, très original, avec ses inscriptions en forme de chipolata et d'andouillette, comme un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, la gibecière, le tofu au goulag, ou encore la toute dernière sacoche Fabien 100% viande avariée. On a déjà participé à un gouvernement d'Union Nationale en 1945 avec De Gaulle, ce n'est pas quelque chose qui nous choque. J'ai dit à Macron que tout dépendait du projet. Celui-là, c'est un grand sac, c'est le grand, grand Saint-Aude-Bac. C'est pour les grandes, grandes courses, parce qu'il a vraiment, vraiment faim, Roussel. Aujourd'hui, mercredi 22 juin, le soleil s'est levé dans la baie de Marseille, au soleil, au mois d'août. Il va se coucher sur une mer d'huile, et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur campusil.com, le DAB+, et sur le saucisse pois chiche, quand Eunice se tient un peu tranquille.
Dans la baie de Marseille, au soleil, au mois d'août, sur une mer d'huile à l'autre bout de mon fil, j'oublie tout. Regarde un peu comme je fends les flots accrochés à mon bateau.
Je l'ai payé 50 000 en solde en ville.
Vise un peu le maillot, artère.
Et puis je t'explique même pas comment je tombe les fils.
Laissez-moi passer, c'est un conseil d'amis, je veux dire, repoussez-vous, tant pis, je vous l'aurais dit. C'est que moi je vais jusqu'à l'autre. Ça me rappelle le générique d'Amicalement Ventre, alors je dis bonjour comme ça, à personne. Car comme je glisse sur cette mer lisse, cacou, tout à côté du petit Nice, à l'évidence, c'est le pastis qui fait la différence. Car voyez-vous, quand je skie, je bois du pastis. Salutement, et ce depuis toujours.
Ce que je crois est loin d'être le cas de Tony Curtis.
Loin d'être le cas, si loin d'être le cas. Et Roger Moore. C'est que moi je fais ce qu'il dit.
Ce qu'il
dit. Non, c'est que moi je fais ce qu'il dit. Comprenez que ce qui fait que depuis toujours, au petit jour, quand j'ai envie de faire tout. C'est que l'amour que j'ai du ski est si fort, qui fait que ce n'est que pour filer que je sors sur le port aux aurores sans effort. Imaginez-vous la vitesse avec laquelle je me déplace, je me transfère, je me translate et je me mute. Figurez-vous que mon bateau est un offshore spécial turbo. Et d'ailleurs, à ce propos, je l'ai payé 250 patates sans les lunettes. Rapport à la vitesse, en clair, t'as 250 patates à l'offshore, d'accord.
Mais si t'as pas les lunettes,
c'est mort.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus. C'est une émission, c'est la première de l'été, certes, c'est aussi la première après le second tour des élections législatives. Il s'est passé quelque chose dimanche, Ali, je ne sais pas si tu es au courant.
Dimanche.
Ouais. Moi, je sais, ils n'avaient pas prévenu trop, ils n'avaient pas
dimanche
trop...
Dimanche 19 juin.
Vas-y, pense à un truc, cabine de plage, il fait chaud.
Cabine de plage.
Et tu rentres dans une cabine de plage.
Tu rentres dans une... Le vote, il y a un vote.
On a voté.
Putain, je m'en souvenais plus de celle-là.
Bah ouais, on n'a pas tous voté, hein. Ça, faut reconnaître que.
On est beaucoup à pas avoir voté.
Oui, bien sûr. Ouais.
Nous, on s'en souvient.
Mais encore.
Il y en a qui s'en sont même pas souvenus. Ouais. Mais il y en a qui savent pas, peut-être d'ailleurs que.
Oui, mais je pense qu'il y a une grande partie de la population française qui ne sait pas qu'il y a des élections. Voilà, parce que. Ils n'ont pas forcément fait un gros battage avant, évidemment, hein, parce que c'était la tactique aussi macroniste. Hein, c'est que moins ça bouge, moins eux ils bougent, ou plus ils ont des chances de gagner, en fait. Hein, donc ils misaient sur l'abstention. De ce point de vue-là, ils ont à peu près gagné. Mais bon, malgré tout, il y a eu un vote et dans les institutions françaises, ça compte. Quoi. Je veux dire, les mecs sont qualifiés quand même. Quoi, hein, ils n'ont pas marqué de but, tout ça. Il y a moins de 50% de... Mais ça compte quand même. Le pouvoir, c'est ça. Quoi, hein, c'est que... le pouvoir, je sais pas là, finalement, est-ce qu'il y a un pouvoir là aujourd'hui? Moi, je sais pas toi Ali, moi j'ai dimanche soir, à un moment, j'ai allumé la télé. On a tous nos faiblesses.
T'as bien du courage. Donc t'allumes ta télé sur quelle chaîne d'abord?
Bah, une chaîne d'information de propagande continue, tu vois, normal quoi. Je crois que c'était BFM, je crois, un truc comme ça. Et c'était, il y avait le décompte. Hein, on était tout près de 8h. Et là, je vois sur le plateau, comment il s'appelle, le beau gosse de En Marche là.
Le beau gosse d'En Marche. Ils sont tellement, tu sais. C'est...
Ah oui, parce que c'est une collection.
En Marche,
hein.
C'est un peu Ken et Barbie.
Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ils ont un directeur du casting.
Ah, ils recrutent. Ils ont un recruteur.
Ah ouais, c'est énorme. Hein, parce que là, c'est Gabriel. Il s'appelle Gabi.
Attal.
Gabi Attal.
Attal.
Voilà. On l'appelle Gabi en partout. Je veux dire, dans l'intimité, on l'appelle Gabi. Hein. Et Gabi, beau gosse. Hein, beau gosse. Et puis, alors j'étais avec une personne de ma connaissance hein, qui dit « Oh putain, il a l'air content lui !» Mais la personne de ma connaissance était à 2 ou 3 mètres de l'écran de télévision et moi j'étais juste en face et j'ai vu tout de suite qu'il était tendu. Tu vois, il souriait mais c'était un petit peu forcé, tu vois.
Pas sourire crispé, là,
j'ai dit, il était 8h moins 1 hein. Là, j'ai dit non.
Comme quand tu te retiens de péter, là, c'était
très sympa. Ouais. Tu dois faire bonne figure,
donc t'es là comme ça.
Non, il était pas bien.
Il était pas bien. Ouais, c'était ça.
Parce qu'en fait, bon.
Je sais pas ce qu'il a mangé à midi.
Mais... On informe nos auditeurs qu'il n'aurait pas remarqué, mais le parti présidentiel ou le truc. Là,
Renaissance.
Voilà. C'est pas Reconquête. C'est Renaissance.
Ça se rapproche.
Ils n'ont pas eu la majorité absolue, et donc ils peuvent. C'est très nettement un caillou dans leur godasse, quoi. Hein. C'est-à-dire que pour un, admettons, pour, allez, pour un militant, admettons, hein, un militant, disons, anticapitaliste, par exemple.
Ouais.
Là, il y a une occasion énorme parce que quand l'ennemi est affaibli, et visiblement il est affaibli, quoi, c'est une occasion. Mais même tout simplement, si t'aimes bien la merde, quoi, si t'aimes bien que ça soit le zbeul, quoi, que ça soit la merde, quoi, c'est sûr, ils sont dans la merde.
C'est vrai. Si on peut faire un petit peu d'histoire en fait de la 5ème République, chaque président
a eu sa majorité. Même Macron, ça lui arrivait une fois d'avoir une majorité absolue. Mmh. Voilà. Et là, bon, là, un petit peu.
Ça fout la merde.
Tu disais comme merde, un petit peu.
En fait, il y a trois blocs, quoi. Hein. On avait vu ça à la présidentielle. Mais en fait, ça radicalise un petit peu la situation. On est dans une situation de radicalité. Parce qu'il reste au milieu le bloc bourgeois.
Il veut pas partir celui-là. Hein.
Ah non, il partira pas.
Il faudra forcer à partir.
Ouais. Alors, on parlait de casting, mais comment ils font pour. Il faut avoir violé quelqu'un, je crois, pour rentrer dans le truc.
Ah, quand tu regardes toutes les attaques.
Damien Abad, on peut pas dire, hein, parce qu'on sait pas. Hein.
Ouais, mais bon, mais il a quand même des accusations. Mais il y a quand même des accusations. Darmanin, Gérald Darmanin. On peut pas dire, mais il y a des accusations.
Il y a une nouvelle aujourd'hui. C'est un viol, mais c'est une femme qui a fait un viol.
Ah bah oui, bah écoute.
Elle s'appelle Zakharopoulou. Je l'avais pas repérée celle-là.
Non, elle est passée sous les radars.
Et puis, elle est secrétaire d'État, je sais pas quoi.
Ah, il y en a qui font ça plus discrètement que les autres.
Et non, je déconne pas. Elle est accusée de viol. Oui. C'est tombé aujourd'hui. Il y a deux plaintes. Elle est gynécologue et il semblerait qu'elle ait profité de sa position privilégiée de gynécologue pour violer des femmes.
Ah bah ouais, c'est vrai.
Ouais, là, je me dis, ça devait être dans ton CV. Les mecs, ils l'ont pris pour ça, hein, parce que.
À mon avis, je pense, c'est ça. En fait, les recruteurs, les chasseurs de têtes, comme on les appelle, pour la Renaissance en marche. Mm-hmm. Peut-être que voilà, qui regarde. Vous avez violé quelqu'un? Non. Ah bah dégage. Allez.
Non, mais à mon avis, l'éminence grise de cette fraction, hein, de ce bloc bourgeois, à mon avis, c'est Strauss-Kahn. C'est lui qui doit faire le casting, à mon avis.
Ah bah oui. Bah.
C'est quand même un spécialiste.
C'est le spécialiste, c'est le chef, c'est le cador.
Alors, il y a le bloc bourgeois et puis il y a deux autres blocs, on peut les appeler comme ça, hein, qui se sont révélés. Hein, parce que dans le bloc bourgeois, on met Macron et en fait les débris du PS et de LR. Parce que Macron, c'est l'expression même d'un problème pour la bourgeoisie de ce pays, c'est que le PS tout seul ou les Républicains tout seul, ça ne marchait plus. Les alternances, machin, etc. Fallait créer quelque chose de neuf.
Au bout d'un moment, même le plus con des cons, il s'en aperçoit que c'est les mêmes.
Bah oui. Et là, c'est là que McKinsey rentre en jeu. Il dit, on va sortir un candidat tout jeune, tout neuf, etc. Qui n'est ni de droite, ni de gauche. Quoi.
On va vous faire un super plan marketing avec un nouveau candidat qui va être beau, qui aura moins de 40 ans.
Avec entouré de jeunes.
Je vais vous proposer un petit rétro-planning, là, on commence en 2017, et puis
on va faire un PowerPoint, donc voici
la courbe de sympathique, ce type
génial. Ah tiens, l'habitat Griveaux. D'accord, ok.
Et Macron.
Et voilà, Macron.
Et d'un coup, comme ça, on a un projet.
Voilà, exactement. Alors bon, il y a quand même, dans la défaite de ce bloc bourgeois, il y a quand même la défaite de certaines grosses pointures, comme Castaner.
Voilà, il y a des choses quand même qui font plaisir. Il faut quand même trouver de quoi se réjouir de cette élection.
Oui, et tu vois, je suis pas toujours en phase avec Mélenchon, mais quand il a dit, quand il s'est félicité de la défaite de l'éborgneur Castaner, j'ai dit là, il a visé juste.
Ah oui.
Et ça leur plaît pas. Dans les salons, ils n'aiment pas du tout qu'on parle comme ça.
C'est pas dans l'œil.
Œil pour œil, dent pour dent. Il y a aussi Amélie de Lombard de Montchalin.
Amélie de Lombard de Montchalin,
elle a été battue à ces élections. Elle ne sera donc pas députée. Mais on a une bonne nouvelle pour elle, puisque un poste vient de se libérer, un poste de femme de chambre dans un hôtel Ibis des Batignolles. Un poste qui était occupé jusqu'à présent par une femme, comme le dit Elisabeth Lévy, notre grande éditorialiste qui a un niveau CM2. C'est Rachel Keke. Alors, bon. Nous, on est neutre, hein. On fait pas de politique.
Oui,
hein.
Et puis nous on s'en fout. Nous,
la politique, on est droite et de gauche. On fait pas de politique.
Voilà. Nous, la
politique, ni révolutionnaire,
ni réformiste.
Ni réformiste.
La politique, ça nous intéresse pas.
Voilà. Mais il faut quand même reconnaître que cette victoire. Enfin, cette victoire, cette irruption de la NUPES dans l'Assemblée nationale, même si c'est extrêmement limité, qu'il y a plein de limites, hein, qu'il y a des limites à la fois aux chiffres obtenus.
Ah bah oui, et puis donc,
et puis des limites.
Je pense à certaines composantes de la NUPES.
Oui, bien sûr, il y a des limites, et y compris la composante principale qui peut. Il y a des limites partout. Mais en tant qu'idéologue de la lutte des classes, ce que nous sommes ici. dialogue officiel de la lutte des classes.
Ah, oui,
sur Radio. T'es pas d'accord avec moi?
Si.
T'es sûr que t'es pas d'accord avec moi?
Ah, moi je suis.
T'es d'accord avec moi?
Hein,
mais d'accord. Sans, parce que des fois, il peut y avoir des désaccords.
Ah, on peut. Mais il faut des désaccords.
Non, je suis pas d'accord. Non, tu me laisses pas parler là.
Bah, continue, vas-y.
Non, mais.
Je t'empêcherai de parler une autre fois.
Bon, calmez-vous, tout va bien se passer.
Bon, en tant qu'idéologue de la lutte des classes sur idéologue officiel de la lutte des classes sur cette antenne, il faut bien reconnaître que la victoire de Rachel Keke lors des élections face à Roxana Maracineanu est une victoire pour nous tous. Parce que finalement, c'est l'irruption, comme au bon vieux temps du Parti communiste, quand il y avait un Parti communiste ouvrier, c'est l'irruption dans l'Assemblée nationale du prolétariat tel qu'il est aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans le prolétariat toute une population très très souvent très très basanée, hein, voire modérément basanée, mais quand même toujours un petit peu trop, hein, pour le qui nettoie vos chiottes, qui nettoie votre salon, qui nettoie les bureaux de votre entreprise, qui ramasse votre merde, qui vous livre vos pizzas en 3 minutes à vélo ou je sais pas quoi, les Deliveroo, les Uber Eats, les machins, etc. Et tous ces gens là on l'a bien vu, le bloc bourgeois, la haine qu'ils ont développée vis-à-vis de cette candidature en particulier, mais des candidatures NUPES en général, mais particulièrement vis-à-vis de cette candidature, c'était véritablement une haine de classe très forte. Et aujourd'hui, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir dans la gauche aujourd'hui française ou dans les milieux militants qu'on connaît et qui sont, admettons-le, relativement réduits, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, on ne peut que constater que c'est une victoire. C'est une victoire pour notre camp que la présence de Rachel Keke, de quelques autres, hein, évidemment, dans l'hémicycle. T'es d'accord avec moi,
Olivier ? Mais c'est une victoire provisoire. C'est une victoire provisoire, parce qu'on peut pas parler de victoire. Il n'y a pas de victoire.
Attends, qu'est-ce que tu veux dire, là ?
Non, je veux dire, il n'y a pas de victoire.
Mais ferme ta gueule, mais non, mais je suis pas d'accord.
Non,
je suis pas d'accord.
Police du racisme.
Non, bah oui, c'est ce que je veux dire. Allez, arrête.
Non,
mais laisse-moi finir maintenant.
Mais tu dis n'importe quoi, mais tu dis des conneries, je veux dire, c'est insupportable.
Même si je dis des conneries, j'ai le droit de parler.
Mais tu n'arrêtes pas, sinon je vais continuer, mon pauvre ami. La tienne, pauvre crétin.
Voilà, nous aussi, on sait faire de la radio. Nous aussi, on peut faire de la radio. Ta gueule, pauvre crétin.
Ta gueule.
Bon, alors, la situation, si on écoute les médias, machin, etc., ils disent que c'est, ouh, putain, c'est une situation, c'est trouble, on ne s'y retrouve pas, alors que la situation est très, très nette pour qui sait lire. Voilà. Parce que, au-delà de la défaite de fait, hein, du bloc bourgeois qui ne peut pas gouverner tout seul et qui va devoir trouver des alliances, et on voit déjà un petit peu de quel côté ça penche, il y a une montée des fascistes, hein, parce qu'il faut quand même rappeler.
Une montée. Ils étaient déjà bien montés. Hein.
Oui, ils étaient déjà bien montés. En tout cas, là, ils sont très très présents, à près de 90 députés, je pense, hein, au niveau de l'Assemblée nationale. Hein, voilà, donc. Zemmour, il n'a pas percé. Hein, c'est juste le Rassemblement national, c'est-à-dire c'est plus poli, quoi. C'est plus.
Voilà.
On n'aurait jamais cru un jour pouvoir dire qu'il y avait quelque chose à droite d'un point de vue électoral.
Ah, est-ce qu'on peut parler de fascisme light en parlant du RN vis-à-vis de Reconquête? Non.
C'est-à-dire que le fascisme, c'est une notion très plastique, si tu veux. Hein, c'est-à-dire que. En vérité, le fascisme, comme le disait Georges Dimitrov, c'est la dictature terroriste des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capital financier. Hein, c'est-à-dire que, en vérité, le fascisme, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à la société et au système. Hein, puisqu'on sait que l'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes, et que donc, on a des éléments, des partis politiques, qui sont soit d'un côté, du côté du travail, il y en a peu, hein, soit du côté du capital. Hein, être en dehors de tout ça, ça n'existe pas. Parce que Le Pen, quand tu lui poses la question, est-ce que vous êtes de droite ou de gauche, elle dit, oh non, il n'y a rien de tout ça.
Ni l'un ni l'autre. Au contraire.
Elle ne fait pas de politique, Le Pen, non plus. Ni réformiste, ni révolutionnaire, ni quoi que ce soit.
Elle ne fait pas de politique.
En vérité, le fascisme est toujours précédé d'une période de fascisation qu'on vit ici depuis des années et des années. C'est-à-dire que, en vérité, il faut bien considérer qu'il y a deux classes, hein, que la bourgeoisie, quand elle est affaiblie, et aujourd'hui on voit, et quand il y a une période de crise, donc il y a bien période de crise économique, etc. Enfin. Bon. Et quand elle est affaiblie, et là elle est affaiblie manifestement, électoralement, parce qu'il n'y a pas que les questions électorales, hein, bien évidemment, qui nous occupent, mais la bourgeoisie est affaiblie, son crédit est affaibli, les 53% d'abstention, ça les affaiblit, le vote NUPES, ça les affaiblit, Tout ça, plus personne ne croit en eux. Hein. Il y a eu les gilets jaunes et tout. Ça les a marqués. Hein.
Ah bah...
ça les a traumatisés, souvenez-vous, à l'époque.
Ça a aussi marqué les gilets jaunes.
Mais souviens-toi, Griveaux, justement, on parlait de sa bite là tout à l'heure. Mais, on a parlé de sa bite, mais on n'a pas parlé de sa porte. Je me souviens, la porte cochère qui avait été. Il y avait un Clark qui avait défoncé la porte du ministère, aussi. Etc. Mmh. Voilà. Donc, ils ont été traumatisés, ces gens-là. La classe bourgeoise a une conscience de classe, évidemment.
Et elle a peur.
Elle a conscience.
Elle a peur.
Elle est consciente. Elle est consciente. Et elle sent donc que ça monte. Parce que. Donc, vous avez d'un côté la classe bourgeoise qui s'affaiblit, et de l'autre côté, vous avez les classes populaires ce qu'on appelle les classes moyennes, hein, en voie de déclassement, hein, c'était exprimé par le mouvement des Gilets jaunes, qui se révoltent, qui sont en colère, et qui se révoltent d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue électoral, soit en ne votant pas, soit en votant NUPES, soit même en votant RN, puisque les gens qui votent RN, les gens d'en bas qui votent RN, ils votent, c'est un vote de colère. Donc, voilà. Et c'est dans cette période où la bourgeoisie est affaiblie et où les colères montent que la bourgeoisie, qui est elle très consciente et qui peut anticiper quelques coups d'avance, se dit « Il faut qu'on prépare notre plan B, la fameuse dictature terroriste de la bourgeoisie. » D'accord ? Et donc, ça a étonné certaines personnes, mais effectivement, dans la quasi-totalité des cas, lors du deuxième tour, les En Marche, les macronistes, etc., n'ont pas fait appel.
Ah non, le fameux barrage.
Ils
n'ont pas fait barrage.
Ça marche dans un sens. Ça marchait il y a quelques mois encore.
Ah oui, mais sinon.
Dans l'autre sens.
Dans l'autre sens, toujours.
Ouais,
Sinon, les gens de gauche qui font pas barrage, ils font le jeu du Front National, enfin du Rassemblement National. Mais à l'inverse, non, sinon, il faut laisser la démocratie s'exprimer.
Eh bien, vous avez vu la propagande quand même.
Ah.
La propagande anti-Mélenchon, anti-NUPES.
NUPES, c'est bien ce rassemblement d'antisémites, d'islamistes.
D'extrême gauche. D'anarchiste, d'extrême gauche.
C'est vrai.
Pense à Olivier Faure, c'est ça qu'il s'appelle,
Olivier Faure.
Pense à cet anarchiste d'extrême gauche. Pense à Jérôme Guedj, cet antisémite. Pense à
Fabien Roussel.
Non, mais pense à Fabien Roussel. On va en parler de Fabien Roussel. Non, on va en parler après.
Ils ont pas honte de ce qu'ils disent, quoi.
Mais ça montre bien leur faiblesse. C'est-à-dire que même du rose pâle. Dans certaines situations, du rose pâle, ça devient du rouge, quoi. Pour eux, parce qu'ils sont confrontés à des contradictions telles que eux, ils vont passer du bleu clair au bleu foncé, voire au noir. C'est-à-dire le fascisme. Et évidemment que de l'autre côté, le Rassemblement National, avec Le Pen et compagnie, c'est adouci dans l'image, évidemment, hein, c'est adouci dans le verbe, etc., pour rejoindre ce mouvement-là de la bourgeoisie qui est en train de se droitiser. Et de développer les thèmes de l'extrême droite, le burkini, machin, etc. Bon, le burkini, ça concerne combien de personnes dans ce pays?
Oui.
Je veux dire, bon, ça n'a pas de sens, je veux dire. Mais cette thématique des immigrés, du grand remplacement, etc., le fascisme, ce n'est pas seulement le RN. C'est aussi Macron, c'est aussi LR, c'est aussi le PS, c'est aussi des gens qui, même à gauche, traditionnellement à gauche, nous ont dit qu'ils ne s'intéressaient pas aux franges radicalisées des quartiers populaires, qui nous ont dit que vivre à la française, c'était la bonne chose. C'est des gens qui pensent que la laïcité, ça s'applique dans les piscines ou sur les plages. Fabien ?
Non,
ces dernières déclarations, dans l'idée qu'ils veulent constituer un groupe responsable à l'Assemblée nationale. Et ils ont déjà eu un groupe à l'Assemblée nationale assez important, je crois que c'était à la fin des années 80. Ça avait éclaté au bout de deux ans.
88, hein. 86, c'est ça.
Entre 86 et 88.
Entre 86 et 88. Ça avait proportionné, ils étaient 35.
Ouais, et bien ça a explosé en vol.
Ah oui.
Parce qu'il faut quand même le dire. C'est que, bon, ils ont fait quelques petits efforts en termes de casting. On parlait de casting tout à l'heure, hein, de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a quelques jeunes loups avec des grandes dents, etc. Mais grosso modo, il suffit de regarder. Moi, je veux pas être méchant. Oui, hein.
J'ai déjà vu certaines affiches, en tout cas, de candidats aux législatives.
C'est des chabers.
Ah, c'est. Ouais, faut pas être méchant.
C'est des gros chabres, ouais. Eh, t'as vu, on pourrait le passer, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Mais les interventions de certains candidats.
Les interventions de certains candidats, ouais.
Madame, qu'est-ce que vous comptez faire pour les services publics?
Je sais pas. On pourra répéter la question.
On pourra couper ça au montage.
Stéphanie de Monaco.
L'immigration.
Non, il y en a trop.
Ah, il y en a.
Et donc ces gens-là vont se retrouver dans les ors du palais Bourbon et vont se retrouver confrontés. Bien sûr qu'on va essayer de les acheter, que les uns ou les autres vont essayer de les acheter, de les détourner, etc. Et que de toute façon, c'est une pétaudière. Parce que le fascisme, comme l'a très bien démontré Pasolini, c'est une pétaudière. C'est des gens, c'est des... Eux, le viol et tout ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de Poulet d'Achary, par exemple.
Ah, oui, c'est mieux, voilà.
Le viol, machin, etc. C'est cette culture de la merde, quoi. Parce que c'est ça, le fascisme, c'est aussi c'est la culture de la merde, du caca, quoi.
Voilà. Faut revoir, voilà, justement, Pasolini, voilà, Salaud ou les 120 journées de Sodome.
Bon. Juste une précision, c'est pas inédit, cette situation. On l'a connu à peu près la même chose en 88, à la réélection de François Mitterrand, juste après, le Parti Socialiste n'a pas réussi à avoir une majorité absolue. Les communistes, à l'époque, ils avaient encore un petit peu de couilles. Ils n'ont pas voulu aller au gouvernement, donc ils n'ont pas voulu s'allier. Je pense qu'il s'en fallait une vingtaine de députés, hein, 20 ou 30 députés. Et donc, les socialistes, à l'époque, ils s'étaient alliés avec l'UDC, l'Union du Centre. Comme quoi, les centristes se sont forcés de mon coup. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, c'était les gouvernements Rocard 1 et 2. Voilà. On sait ce qu'ils ont engendré. Hein,
qui ont principalement, d'ailleurs, ils faisaient passer les ordonnances régulièrement. Hein,
exactement.
Ils savaient très bien que si ça passait au Parlement, ça passait pas.
Voilà.
Ça, d'un point de vue technique, ouais, c'était à peu près la même situation. Là, aujourd'hui, on est quand même dans une situation différente. D'un point de vue politique, on est quand même dans une situation
différente. Politiquement, c'est complètement
différent. Alors, pour on parlait des fascistes, là, en rigolant. Bon, il y a Zemmour. Et ce mec vit mal. Ce mec avait un destin. Ça se voyait. Vous vous souvenez de son clip de campagne, hein, en noir et blanc, hein, c'était sa campagne des élections de 1933, je crois. Hein,
c'était les années 33.
C'est ça.
33.
Hein, c'est ça. La France d'avant, c'était mieux, machin, etc. Bon, il s'est ramassé parce que. Mais c'est un aiguillon. Il est utilisé aussi par le système parce que lui, il ne fait toujours que rappeler les mêmes thématiques, les musulmans, etc., que vont reprendre ensuite bien sûr le RN, mais également LR, évidemment les Ciotti et compagnie. Hein.
Son rôle, c'était ça. De toute façon, c'est d'axer toute la campagne là-dessus sur les thématiques, le voile, l'insécurité, l'islam,
et faire apparaître au passage Le Pen comme quelqu'un de
très modéré.
Il a réussi.
Une bonne mère de famille. Celle qui aime bien les chats et tout, etc.
Alors que lui, c'est les chattes plutôt. Non, je dis ça, mais c'est parce que c'est un personnage qui est intéressant quand même, Zemmour. Hein, parce que là, je crois qu'il va mal, on l'a bien vu. Hein. Il a dit, ouais, c'est pas la hauteur de nos espérances, mais on a planté des drapeaux partout.
Il va prendre un peu de repos à Saint-Tropez, je crois, non
Mais je crois que c'est hier ou aujourd'hui, il y a eu un bureau politique de son. De la
Reconquête.
Reconquista. Hein, il y a eu un bureau politique, il a failli en venir aux mains avec son vice-président.
Ah, quoi, déjà
Jérôme Rivière, mais c'est une saloperie. Il est passé partout. Ils ont failli en venir aux mains, ça, c'est la presse qui dit ça. Et le Canard enchaîné d'aujourd'hui révèle que. Éric Zemmour, alors il y a déjà eu des problèmes avec les gens, lui. Je me souviens plus ce que c'était. Mais je vais vous le dire, vous allez peut-être vous rappeler. Parce que ce qui a été révélé aujourd'hui, c'est qu'il vient de se faire virer d'un club très select, qui est le club de la piscine du Ritz. Le Ritz, c'est un grand hôtel, d'accord. Ils ont une piscine spéciale pour les riches, quoi. Voilà. C'est 7000 balles l'année. Hein, donc voilà. Et en fait, vous savez pourquoi il a été viré ? À cause de son comportement envers la clientèle.
Ah bah voilà.
Il y avait une histoire comme ça, non ? C'était dans un commerce ou je sais pas quoi. Il envoyait chier les gens, etc. Non, il y a.
Et une vraie saloperie.
Une vraie saloperie, ouais. On fait une pause, non ?
Ouais, on fait une pause.
Quand tout matin tu t'es levé, avant même d'aller te laver, il faut que tu baisses. Faut que tu baisses ta mère. Là, tu vas te même s'il est fort tard, faut que tu bises ta mère. Quand tu as un beau bulletin, que t'es premier octème latin, faut que tu bises ta mère. Pour la fête des mères, pas pour la fête de père. Faut que tu bises ta mère. Parce qu'elle est bonne, qu'elle est jolie, parce qu'on en a qu'une d'aussi gentille. Faut que tu baisses ta mère. Même qu'elle est malade, qu'elle est au lit, qu'elle a des bandages, qu'on dirait une mourmette. Et faut que tu baisses ta mère.
partout, papa, salaud.
C'est cassé.
Qu'elle est toute seule.
Vraiment délaissée.
Fuck tu baisses. Faut que tu baisses ta main. Faut que tu baisses. Il faut que tu baisses ta mère. Faut que tu baisses. Faut que tu baisses ta mère.
Ah, c'est toujours l'heure de le mettre. Hein.
Ouais.
Sur campuslibre.com, sur le DAB+, un tout petit peu sur le saucisse pois chiche. Hein. Ça reviendra bien prochainement. Hein. Prochainement, notre antenne va revenir, on le dit, on vous préviendra.
Ah là, elle reviendra, on le sait, en haut lieu. En haut lieu, c'est au-dessus
c'est
du bâtiment.
C'est au-dessus du bâtiment. Voilà,
là de quoi va la mettre.
Ouais, ouais. Si, on a encore le droit, parce que c'est vrai que le fascisme, ça s'accompagne aussi d'attaques plus ou moins ouvertes vis-à-vis des mouvements, des associations, de tout ce qui peut... C'est toute une ambiance, en fait, la fascisation. Hein. C'est-à-dire que c'est... Ça se construit pas à pas, un petit peu à la fois, par des petits événements, des petites choses, etc. Bon, les flics qui tapent très fort, par exemple. Hein, j'ai vu un rassemblement à Nantes, là, un truc tout bête, et les gens se sont fait casser la gueule, quoi, tu vois. C'est un petit peu... c'est les méthodes fascistes, quoi. Hein, la menace, l'intimidation physique, etc. etc. Et ça vient, évidemment, c'est pas à séparer d'une logique de classe. Hein. C'est bien évidemment la classe dominante qui se sert hein, des mouvements fascistes pour arriver à ses fins, pour parvenir à conserver le pouvoir économique, notamment, qu'elle a sur le prolétariat. Le prolétariat. Nombreux, hein, quand même.
Qui s'en prend plein la gueule.
On est quand même nombreux, je pense, au bout du compte.
On est plus qu'eux.
Ouais, je pense
qu'on est plus qu'eux, normalement.
Normalement, dans une cour de récréation, on les nique.
Quand même.
On est 95%, je veux dire, 98% ou j'en sais rien, quoi. Normal. Mais tout est fait, bien évidemment, pour diviser les gens d'en bas. Évidemment. Et puis surtout, pour diaboliser toute forme de contestation, qui soit une contestation, on va dire, sociale, de gauche, quoi. Et donc, on l'a dit, hein, autant on banalise l'extrême droite, hein, le fascisme, les mouvements fascistes, autant on diabolise de plus en plus Mélenchon, et, bah, parce que bon, eux, ils ciblent Mélenchon, évidemment. Il n'est pas républicain, Mélenchon.
Non, il n'est pas républicain.
Pour un ancien franc-maçon socialiste, je veux dire, c'est quand même osé de lui dire ça, quoi. Parce que la République, c'est lui, non ?
Ah, la République, c'est moi ! Bah oui, c'est... Voilà.
Non, c'est audacieux, je veux dire, bon... et puis bon, comparer à bolchevique, comparer la NUPES à des bolcheviques, voilà, les heures noires de notre histoire, Ali, le communisme.
C'est terrible.
Incarné par Fabien Roussel, non.
Non, lui, ça va.
Non, il passe crème, hein, il passe vraiment très très bien dans les médias.
Très compatible.
Il y a plein de gens qui lui font des compliments. Hein,
on l'aime bien.
Tout le monde l'aime bien. Tout le monde dit que lui, au moins, parce que lui, la laïcité sur les plages, dans les piscines, etc., il pour quoi, tu vois, et puis le côté un petit peu apéro saucisson, je veux dire, c'est quand même nos valeurs, quoi.
Ça passe,
mais c'est populaire. Il paraît que c'est populaire, hein. C'est
les gens, ils veulent qu'on leur parle de ça, des vraies choses.
Voilà, c'est ça,
voilà.
Et mais on parle bien des gens qui ne font pas partie des franges radicalisées des partis, des quartiers populaires.
On parle des vrais gens, des hommes blancs et la tradition française qui est quand même le plaisir de la table. Tu peux pas enlever ça.
Non, on peut pas.
Tu peux pas enlever ça.
Mais je veux pas enlever le plaisir de la table. Oui, la table a bien le droit de prendre son plaisir aussi.
Ah bah oui, aussi.
Je sais pas comment, mais après c'est technique. Je veux dire, après il faudrait demander à un membre du gouvernement qui aurait violé une table, par exemple. Je sais pas si.
Ah, ça doit arriver.
Ah bah on a droit à tout là. Une gynécologue qui viole ses patientes. Un handicapé, moi j'ai rien contre les handicapés, hein. Mais alors il dit non, mais j'ai pas pu la violer parce que je peux pas, j'arrive pas.
Tu vois, je pense que le gouvernement,
Darmanin,
d'Elisabeth Borne, il peut pas aller plus loin dans l'inclusion des personnes handicapées en recrutant quand même un ministre handicapé.
Elisabeth Borne, tiens, maintenant que t'en parles, Elisabeth Borne, Elle est bien quand même cette femme.
Ah bon, bah oui, bah sinon elle serait pas restée depuis très très longtemps. Elle a toujours été au gouvernement, elle, si j'ai pas de. Si j'ai
ah, pas, je sais pas, elle a toujours été là. Elle a toujours, été,
elle a toujours été là depuis c'est 2017, peu... c'est un bon petit soldat.
J'ai l'impression qu'on l'a toujours vue. C'est un peu la Michel Drucker de la Macronie, quoi.
Ah, c'est ça, c'est ça.
Il paraît qu'il y a un mec qui l'a vu rire, mais c'était en 1986, mais c'est pas sûr.
1986
Ouais, on l'a vu rigoler, on l'a vu rigoler une fois. Ouais, il paraît qu'elle a rigolé une fois, parce qu'elle serait chatouilleuse, mais c'est pas sûr, c'est sous réserve, parce que nous, on va pas diffuser des fake news. Hein, mais
et puis
bon,
c'est les informations qu'on n'a pas, nous, on n'est pas.
Oui, on n'est pas dans le, on n'est pas dans l'appart, on n'est pas dans le, on n'est pas dans le milieu, on n'est pas dans le, on n'est pas dans leur milieu.
On n'a pas été invité.
On n'a pas été invité. On n'a pas été invité. Non, c'est des gens qui n'aiment pas le homard. Je veux dire, c'est voilà. Donc tout de suite, ça crée une fracture, si tu veux, entre les gens qui aiment le homard, comme toi et moi.
Hein. Ouais, ça oui.
Moi, j'adore le homard. Hein.
Ah ben, bah, voisin...
je pense que j'aimerais bien.
Moi, j'adore. Non, moi, j'adore mon voisin homard.
Ah oui, moi. Ouais. Ah, il m'a tué. Non, franchement, moi, j'aime bien les crevettes, donc je crois que j'aimerais bien le homard normalement.
Ouais, c'est pareil.
Ça, parce que le homard, c'est un peu une grosse crevette.
C'est une grosse crevette. C'est une crevette qui a bien mangé.
Voilà, c'est
qui
ça.
Qui a bien, bien mangé.
Voilà, voilà.
Une bonne viande, un bon fromage.
Voilà, bien en forme, ouais,
comme Bruxelles, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. alors bon, alors tout de suite, bon, il y a eu cette alliance de gauche, hein, la NUPES. Bon, on peut rire, hein, parce que nous on est là pour rire en même temps. Et de toute façon, personne nous écoute, donc on n'a pas d'influence, hein, donc on s'en fout. Mais il y a eu cette alliance et elle marque une recomposition en vérité de la gauche. C'est-à-dire, c'est la mort du Parti socialiste qui est actée. Elle est actée et ils veulent sauver quelques meubles, quelques petits morceaux. Ceux qui sont encore dans le Parti socialiste, je parle des dirigeants, sont sans doute, hein, je pense, ceux qui sont les moins à droite, hein, parce que sinon ils seraient déjà partis chez Macron. Donc ceux qui ont encore un petit peu de valeur, tu sais. Et on n'entend plus parler de Hamon et Montebourg.
Bah oui, qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont plus là. Ouais, ouais. Par contre, Royal, elle est là.
Elle est là.
Elle est dans les meilleurs. Et donc, t'as ce petit appendice de Parti Socialiste qui a trouvé encore une voie de salut, c'est-à-dire quelques élus, hein, je pense qu'ils sont à 25, et qui peut permettre de croire en un avenir, peut-être pas radieux, mais voilà. Et puis, t'as le Parti Communiste Français, et puis t'as les écolos, bien sûr, j'ai oublié les écolos, hein, et qui se sont tous ralliés, en vérité, et c'est logique, c'est une question de rapport de force à la France insoumise. Alors, si on prend ces quatre partis, hein, PC, PS, Vert et LFI, alors, ce qu'on peut remarquer, que c'est une hégémonie, effectivement, de la France insoumise, mais c'est pas une hégémonie parce que Mélenchon serait très malin, très rusé, ou parce qu'ils emploieraient des méthodes vraiment pas gentilles envers le PC, etc. C'est pas pour ça. Hein. C'est que simplement, il y a une réalité sociale, et que les élections sont juste le reflet politique d'une réalité sociale, plus ou moins affirmer ce reflet. Et en vérité, la force de Mélenchon et de la France insoumise, c'est d'avoir réussi justement avec des personnes comme Ruffin, avec bien sûr les discours de Mélenchon, mais avec des personnes comme Ruffin, comme Quatennens, avec des personnes issues de, comme on dit, de l'immigration.
De la diversité.
Voilà, la diversité.
Avant des immigrations. Tu vois,
avec des Noirs et des Arabes. Quoi.
Voilà, normal.
En mettant tout ça au premier plan, ça a de fait parlé aux franges radicalisées des quartiers populaires, celles qui votent encore, ça a parlé. Et donc, c'est la bonne voie. Même si on aurait énormément de critiques à avoir, c'est la bonne voie. Et là, on voit que au lendemain de cette élection, eh bien, certains partis, et notamment le Parti communiste français, bon... Non, mais nous, on est communistes ici, hein, donc quand on parle du Parti communiste français, on met un petit C. Hein,
voilà. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de communistes à l'extérieur du Parti communiste qu'à l'intérieur.
Voilà, et bon, on veut pas tirer sur les ambulances non plus. Bon, c'est pas une ambulance, parce que une ambulance, ça voudrait dire que ce parti, et je pense que c'est malheureusement, il y a beaucoup de militants de ce parti qui pensent encore que, à la limite, ils sont dans une mauvaise passe, qu'il faut réaffirmer notre identité communiste, etc., etc. Je pense qu'ils n'ont pas compris que
ça se ferait pas avec Roussel.
Que Roussel.
C'est pas lui qui.
Roussel, c'est un élément qui est fabriqué de l'extérieur, de mon point de vue. Hein. Je peux me tromper, mais je pense qu'il est fabriqué de l'extérieur. Je pense qu'il est là pour pour saboter, pour finir la liquidation du Parti communiste comme Robert Rue avant lui. Hein, il est parti pour rejoindre Robert Rue. Et d'ailleurs, sa rencontre hier avec Macron, alors... moi je vois sur les réseaux sociaux les fans, le fan club parce qu'on peut plus appeler ça un parti hein, on peut plus appeler ça un parti communiste mais on va appeler ça le fan club de Fab,
les groupies
qui ont du mérite parce que ça fait un an qu'ils doivent à chaque fois démentir, nier les propos de Fabien Roussel qui dit des choses qui plaisent tellement à la bourgeoisie, tellement aux éditorialistes, tellement à la droite qu'ils sont obligés de dire que oui, mais non, c'est pas ça qu'il a voulu dire.
C'est pas ça qu'il a voulu dire. Faut comprendre le contexte, etc., etc. Et on les entend régulièrement, hein, nos camarades.
Bien
nos,
sûr.
Nos pauvres, pauvres camarades qui sont encore au PC.
Bien du mérite.
Quel courage.
Et alors, hier, Fabien Roussel était reçu par Macron, bah, comme les autres partis politiques aussi, hein. Et, il est sorti, c'est le seul à avoir parlé de ça, je pense, hein. Enfin, Le Pen a confirmé, je crois, mais que Macron lui reproposait un gouvernement d'union nationale. Alors, bien évidemment, il y a une question arithmétique, c'est que Macron ne peut pas gouverner seul, là. Enfin, tranquillement seul. Donc, il doit chercher des alliés. Donc, c'est ce qu'on appelle l'union nationale, l'union sacrée, l'union nationale. L'union nationale, dans, pour un communiste, hein, moi je suis communiste, admettons, tu vois, on me dit Macron, je veux dire, tu as l'ennemi en face qui est affaibli. Tu viens d'être élu toi-même, personnellement t'es élu, dans le cadre d'une dynamique qui existe quand même, cette dynamique de la NUPES. Et, voilà, avec un groupe, enfin c'est pas un groupe, mais avec au Parlement, voilà, dans l'État où elle est la gauche. Certes, elle est très faible, elle est extrêmement minoritaire dans cette Assemblée nationale, mais c'est moins pire qu'avant. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui existe, et il y a quelque chose, et quand on connaît la société, quand on connaît les travailleurs, quand on connaît ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos villes, etc., on sent qu'il faut des Rachel Keke à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on foute la merde. Ils étaient 17 à foutre la merde pendant 5 ans, et là, ils vont être, si ça se passe bien, ils vont être 150, 160, ben, peut-être pas tous, hein, mais à mettre les pieds dans le plat. Et donc, on est en position de force à ce moment-là face à Macron. Et lui, il sort de son entrevue avec Macron en disant « Ouais, mais non, il m'a parlé d'Union Nationale. » Bon, c'est vrai, il a dit que c'était mal parti, vu le programme, machin, etc. Et ça ressemble tellement à une négociation entre le CFDT, entre CFDT et MEDEF que c'est inquiétant. C'est-à-dire que c'était comme si on était dans une période, si tu veux, où il y avait un grand mouvement de grève et qu'on décidait que les travailleurs décidaient d'une grande manifestation pour vraiment faire plier définitivement le gouvernement qui est affaibli et qu'à ce moment-là, tu aurais par exemple Martinez qui sortirait de Matignon en disant non, on va pas faire la manifestation maintenant, on va attendre le discours.
Voilà, on va dialoguer.
On va dialoguer.
Le dialogue social.
On va attendre le discours d'Elisabeth Borne. L'idée de Mélenchon, puisque c'est lui qui l'a dite, hein, de proposer un vote de censure dès le 5 juillet. Alors, je ne sais pas si c'est possible ou pas institutionnellement.
Motion de censure, oui, si, c'est possible. Voilà. Il faut qu'elle soit déposée par 63 députés, je pense.
Voilà.
Et si donc, je ne dis pas de bêtises.
Ouais, et ensuite, pour que ça passe, c'est-à-dire pour faire tomber le gouvernement. Et ça, je veux dire, si t'es révolutionnaire, c'est pas... Faire tomber le gouvernement, ça suffira pas, mais faire tomber le gouvernement, ça veut dire continuer à affaiblir l'ennemi.
C'est une première étape.
C'est une étape. Et après, ce sera le bordel. Et on a l'impression que Roussel, il aime pas le bordel. Il aime bien, la table, elle est bien rangée, il y a le steak, le pinard, l'apéro,
et
pas de burkini, et pas de machin.
Et surtout, à côté, le couteau à steak.
Le couteau
à steak. Pas le couteau à beurre.
Ni le couteau à homard.
Ni le couteau à fromage.
Est-ce qu'il faut un couteau pour manger du homard, Ali?
Je vais demander à Homard, mon voisin.
Je sais pas s'il sait. Ça s'écrit pas pareil, Ali.
Et alors il est très sympathique.
Ouais, donc. Et donc
qu'est-ce
là,
que ça coûte, mon voisin?
Et donc, tout de suite. Roussel qui dit qu'il faut pas faire un vote de censure, voter la motion de censure tout de suite. Mais les bras m'en sont tombés. J'ai entendu sa déclaration où il dit que, on lui pose la question, le Rassemblement National est-il un parti comme les autres? Il dit, bah oui, il faut bien le constater. C'est à peu près ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fascisation dont je parlais tout à l'heure, hein, ce processus de fascisation qui peut entraîner avec lui non pas simplement les groupes fascistes, pas simplement les identitaires, les skins, il n'y a aucun doute que Roussel n'y a rien à voir avec eux, ni même avec le Rassemblement National, mais ce processus de fascisation, il entraîne avec lui toute une partie de la société française qui est la vieille France en noir et blanc de Zemmour et de Roussel, parce que Roussel, il est en noir et blanc, il est sur un fantasme des travailleurs, si toutefois il était honnête et sincère, il se trompe complètement de classe ouvrière. Il se trompe complètement de classe ouvrière et il se trompe complètement sur la situation actuelle. Et franchement, j'aimerais pas, encore une fois, être militant du PCF parce que je saurais pas quoi faire. Parce que cette motion de censure, elle servirait à quoi ? Il faut qu'on l'explique à nos auditeurs. Faire tomber un gouvernement, il faut que la majorité de l'Assemblée nationale vote pour la motion de censure. Donc fasse tomber le gouvernement. Voilà. Donc moi, si j'ai bien compris, vous avez une opposition au gouvernement qui s'appelle la NUPES. 160 députés. Vous avez une opposition au gouvernement qui s'appelle le RN. 90 députés. Aussi. On arrive à 250. Mmh. Vous avez une opposition au gouvernement, si t'écoutes, hein, si t'y crois, hein, de LR, des Républicains, qui doivent être une soixantaine. Bref, vous... alors on va me dire, est-ce que c'est une alliance entre les... Non, c'est pas une alliance. En 2005, quand on a voté non, c'était pas une alliance entre les fachos et nous.
Loin de là.
Simplement, c'est une addition. D'accord ? C'est un vote. D'accord ? Et donc, l'intelligence politique, de mon point de vue de Mélenchon, c'est de démontrer très rapidement qui est la véritable opposition à Macron par ce vote de censure. Et ça va être intéressant de constater et de voir. Évidemment que LR ne votera pas pour, mais il est fort possible aussi que les fachos s'abstiennent. Hein, d'accord ? Et donc, on pourra dire et démontrer. Alors, ce sera un début de démonstration qu'en vérité, on est dans une situation où le macronisme, le bloc bourgeois est en train de constituer avec les forces fascistes un bloc plus important,
un gros bloc,
disons plus autoritaire et plus raciste encore que ce qu'il est aujourd'hui. J'ai tout dit, l'heure de le mettre sur Radio Campus. Ali, j'ai chaud. T'as beau une ?
Ah, bah ouais,
t'as beau une ? Chez nos valeurs, hein, nous on est là pour boire des coups. Quand c'est l'heure de l'apéro, c'est sacré. Hein.
Ah, voilà, une bonne bière. Fabien ? Une bonne bière ?
Une bonne bière.
Un bon merwell,
et puis voilà quoi.
Une bonne cotalos.
Et puis alors, il a dit aussi, on va croire que je fais une obsession, mais Mi Fabien, je l'aime bien. Ah, Mi, je suis pas communiste, hein. Mi, je suis pas communiste du tout, hein. Mais Fabien, il est sympa quand même. Il a fait sortir une bonne blague, il a dit à propos de la taille du groupe Nupes, il a dit, c'est pas la taille qui compte. Il en manque pas une, il est vraiment bon.
Il y a de l'humour.
C'est un petit peu comme si Maurice Thorez aurait été réincarné en Jean-Marie Bigard, quoi, un petit peu.
Ah bah c'est ça.
C'est, voilà.
Bigard comme la viande. Comme la viande Bigard.
Oh putain. Et après les gens ils vont dire que quand on parle comme ça, on est anticommuniste, il paraît.
Non.
Si, non, ils osent le dire, mais ils sont très peu nombreux, faut reconnaître.
Non, on est anti dérive de ce parti communiste depuis.
C'est nous.
Voilà, cette dérive que depuis plus années
ce qui pèse aussi dans cette gauche là, si tu veux Ali, ce qui pèse un petit peu, c'est et je pense que c'est un effet du réformisme. C'est-à-dire que le réformisme c'est quoi, on veut changer les choses mais en fait on veut pas que ça change, tu vois. C'est un petit peu tu sais, la petite bourgeoisie, elle aimerait bien que ça change un petit peu au niveau de, parce qu'elle a des valeurs, la petite bourgeoisie, elle aimerait bien que ça change, des valeurs morales humaines, si tu veux. Elle aimerait bien qu'on soit plus gentil avec les immigrés, mais faut pas qu'ils soient trop nombreux. Elle aimerait bien qu'on soit plus sympathique avec les homosexuels, mais pas dans ma famille. Et elle voudrait bien qu'on soit dans une société un petit peu plus égalitaire entre les hommes et les femmes, mais faut pas que le mec paye non plus.
Ouvert.
Quand tu veux quelque chose qui ne peut pas exister, c'est-à-dire dans le système capitaliste, et dans la crise du système capitaliste, ça ne peut pas exister, ça. La petite bourgeoisie, elle est dans une situation, elle a vraiment le cul entre deux chaises, mais ça a toujours été. Comme ce qu'elle veut, ce qu'elle prétend vouloir, elle n'y arrive jamais, hein, c'est-à-dire changer les choses de l'intérieur, sans les masses, voire même contre les masses, quand elles sont trop noires, trop musulmanes, etc.
Trop extrémistes, trop radicales.
Et donc ces gens-là se trouvent coincés, hein, au bout d'un moment ils développent une forme d'aigreur, si tu veux, une forme de défaitisme. Et je sais que dans certaines organisations ouvrières, comme un syndicat, il y a des syndicats, c'est déjà fait depuis longtemps, mais un syndicat, une organisation syndicale bien connue, mais y compris par exemple le PCF, il y a cette forme de défaitisme. Déjà quand tu dis c'était mieux avant, il y a cette forme de défaitisme parce qu'on ne veut pas voir la réalité de la classe ouvrière telle qu'elle est aujourd'hui, du prolétariat telle qu'elle est aujourd'hui, et donc on développe une forme de défaitisme qui devient un programme quelque part. C'est un programme défaitiste. On va perdre de toute façon. On l'a bien vu avant le premier tour de l'élection présidentielle, où le PS, les Verts, le PC nous ont dit ouais, mais de toute façon c'est perdu d'avance, donc autant qu'on y aille,
on va y aller.
Mais je veux dire, quand t'es un militant sérieux, tu peux pas partir perdant, même si tu vas perdre. Tu peux pas partir perdant. Ne serait-ce que pour... Tu dois encourager les masses. Tu dois dire aux masses de se bouger, etc. Et tu dois y croire, parce que ça peut marcher. La preuve,
et on va gagner.
Et on va gagner. Et la preuve, c'est que Mélenchon a failli passer au deuxième tour contre tout... voilà. Et qu'aujourd'hui, on a ce groupe-là qui existe, qui a le mérite d'exister, encore une fois, qui va foutre la merde. Ça fout la merde dans leur système. Et ça, c'est pas quelque chose qui doit inciter au défaitisme. Bien au contraire. Ça veut pas dire qu'il faut dire amen à tout ce que dit Mélenchon, etc. Évidemment, j'espère que tout le monde comprend bien. Mais voilà. Ça pousse vers l'avant. Et on entend déjà des discours défaitistes. C'est pas la peine de former un seul groupe, et après il y a des histoires de pognon, etc. Bon, ça, je sais pas si c'est une bonne idée, comme Mélenchon a eu de dire... il m'a revenu là-dessus. Bon. Mais il y a ce poids de la défaite qui est permanent et qui pousse ces appareils à vouloir vivre pour eux-mêmes et non pas vivre dans les masses et avec les masses. Et dans le défaitisme, t'as par exemple l'idée que t'as plein de gens qui disent « Ouais, mais regarde, si tu regardes l'Assemblée nationale aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, bah, tu vois que la gauche, elle est extrêmement minoritaire. »
Oui, elle est minoritaire. Extrêmement minoritaire.
En termes de sièges, ouais. En termes électoraux,
En même temps, quand tu regardes toute l'histoire de la République française, on va dire, ouais. Quand est-ce qu'elle a été majoritaire?
Quasiment jamais.
Quasiment jamais.
Quasiment jamais. Donc, alors, elle est minoritaire dans le cadre de ces institutions, telles qu'elles sont fabriquées, ces institutions. Mais si on regarde le nombre de voix, on a en chiffre absolu, LREM, sur ces élections législatives, hein, ils ont fait environ, c'est pas environ, c'est quasiment, 7 700 000 voix. La NUPES, elle a fait 6 500 000. On n'est vraiment pas loin.
Ah, pas loin. Hein.
On n'est pas loin. Parce qu'après, c'est le mode de scrutin qui aussi. Mais donc, si c'était, si c'était à la proportionnelle intégrale, quoi, hein, le résultat aurait été encore différent et encore plus à l'avantage de la gauche. Quant au Front National, au RN, il a recueilli seulement 3 millions. Alors, c'est énorme, hein. Bien sûr, c'est beaucoup trop et c'est une progression énorme. Pour eux, mais c'est 3 500 000 voix. C'est moins. C'est moins. Et donc,
c'est...
ça.
Quasiment deux fois moins que
la gauche,
que la NUPES.
Ouais, parce qu'après, bon,
il y a du
voilà, électoral, machin, etc., etc. Et donc voilà, c'était une analyse du jour, quoi. Voilà. Et, hein, c'est un petit peu d'analyse. On s'est pas trop disputé, je trouve, finalement.
Non, on se dispute pas assez, je trouve.
Ouais, ben.
À droite, ils savent. À droite, ils savent le faire. Nous,
on dirait un plateau de BFM ou je sais pas quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais pas tout à fait. Mais
ouais,
non,
je suis d'accord. Non, mais c'est juste la coupe de cheveux qui.
Je suis d'accord. Donc, que nous réserve l'avenir? Ah, Elisabeth Tessier, allô. Donc, que nous réserve l'avenir? Eh ben, il y a bien sûr la question électorale ne dit pas tout. Et, évidemment que c'est les masses qui, en bougeant pour bouger, hein, ça c'est de l'agitation, hein, en s'organisant, en revendiquant et en se mobilisant par la grève, etc., qui vont faire bouger les choses, quel que soit le gouvernement. C'est-à-dire que ça a fait bouger les choses en 36 avec un gouvernement de Front Populaire qui freinait, comme ça a fait bouger les choses en 68 avec un gouvernement de droite qui bien évidemment freinait. Et donc il faut que les travailleurs, le prolétariat se réunissent et soit à l'image finalement de quand même de ce groupe où il y a une femme de chambre qui devient députée. Un peu le mot d'ordre, comme c'est, avant il y avait plutôt Hitler que les bolcheviks, le mot d'ordre de la bourgeoisie ça a été plutôt la châtelaine, c'est-à-dire Le Pen, plutôt la châtelaine que la femme de chambre. Et nous c'est plutôt la femme de chambre, très clairement. C'est même pas plutôt, c'est carrément la femme
Carrément, nous.
Et ben voilà, on espère que... Parce qu'il faut... l'ennemi est affaibli et je pense qu'il faut... Il faut en profiter. Parce que là, juste pour terminer. Hein,
ouais, parce qu'il faut terminer, parce qu'après,
ouais,
il faut.
Ouais, il y a 10 ans, je vais me dire, mais c'est parce que Mélenchon dit des choses justes, il dit beaucoup de choses justes. Et comme il y a beaucoup de vide autour, forcément, on voit que lui. Il avait dit à Le Pen dans un débat, de toute façon, à la fin, ça se jouera entre vous et moi. Entre vous et nous. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que le système capitaliste est tellement en crise, le bloc bourgeois, la bourgeoisie est tellement affaiblie qu'il reste deux options. Soit une option du monde du travail, des travailleurs, soit une option fasciste. Et c'est ça qui est en train de se dessiner, pas encore tout de suite, hein, mais c'est ça, l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, c'est ce bloc bourgeois au milieu qui est affaibli, qui ne peut pas gouverner seul, et d'un côté les fachos, et de l'autre côté la gauche, dans l'état où elle est, bien sûr.
Voilà. Mais là, tout de suite,
ouais,
c'est la suite de l'émission.
Ah ouais.
Voilà.
À la fin, on retrouvera la rubrique cassette. Ouais.
La rubrique cassette, hein, si je lis bien, on était le 25 septembre 2002.
Ouais, ce sera dit, ouais.
Voilà, 25 septembre 2002. Et juste avant la rubrique cassette,
ouais.
La chronique de notre camarade Saïd Bouamama, Le Monde vu d'en bas.
Ouais, ce sera à propos de l'Afrique, je pense.
Voilà, la Libye, ouais. Le Sénégal, et c'est l'heure de le mettre, quoi.
Exactement, j'aurais pas mieux dit. Ferme ta gueule.
Vous n'en avez pas assez de vos épopées crapuleuses.
Même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar, c'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les poils. L'angle d'un de ces vieux trottoirs où l'information au noir du tristement célèbre notre organisation. Ma voix traîne dans des affaires louches. Si la plus vieille machine à désinformer du monde sortait de ma grande bouche, j'aurais des milliards en banque d'encombrants de fiches sur ces hommes de pouvoir dissimulés dans une bonne planque. Les juges sauront que je gruge comme eux, avec un âne pâté de baveux, histoire de soudoyer la partie civile au nez à la barbe de ce sénile procureur, lequel implore mon pardon devant ses familles en pleurs. Putain, le verdict est sans appel, aucune preuve. J'investirai avec la thune de ce procès dans des voitures neuves. À la terrasse de chez Edgar, c'est amusant de voir comment l'école blanc baisse du regard. Albert, dépêche-toi, comme d'hab, sers-moi deux verres de la pisse d'âne que tu sers à tous ces crevards qui sont à ton rap. Nous vivons une époque où la fringale du pouvoir défie la faim et la soif, titre le quotidien de la veille, que je décortique sous l'œil éclairé de mon acolyte d'après ses sombres conseils. Bref, la fausse mornif ne rapporte plus, de toute façon qui l'eût cru. Quelques banquiers onéreux aujourd'hui en cabane, loin des parterres fleuris et généreux du boulevard Haussmann. En toute modestie, je fus cette ombre de la rue que chantait Edith Piaf. J'en suis revenu étrangement, les mains pleines de balafres, en souvenir de ces années folles, à trop gratter le plancher avant de ramasser le pactole. Une activité clandestine, nos rumeurs et spéculations nous ont conduit à la tête d'une formidable mine d'informations occultes et malhonnêtes. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard,
même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar. C'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les poux à l'angle d'un de ces vieux trottoirs où l'information au noir tristement célèbre notre organisation. Classez-nous dans la pègre, chez les gros vendeurs de salades sans vinaigre, là où les ex-mecs ont pris du poids. Tu vois petit, comment nos pages d'Ecati les ont fait plonger, et qu'il ne leur reste même pas un os à ronger. Maths et politique, sortis de tôle, rire jaune à mon passage. Et dans la pire faune, c'était la seule espèce à foutre en cage. Les rois du braconnage refourquent toujours, seuls les vrais sont restés pour assasier cette dalle de vautour. Et comme il n'y avait pas grand chose dans la timbale, j'en ai vu tuer pour 25 balles. Et puis après, c'était les perdreaux qui rappiquaient sur un air de cymbale. Ils sifflaient la Marseillaise en décortiquant ton sobriquet. Ceux qui ont su se projeter plus loin que demain dans l'avenir t'avertissent du danger sur les coups à venir et te disent qu'il n'y a pas pire que ce qu'ils détiennent dans leur stock. Aucun rapport avec le toc refourgué par t'aider les doigts de fée. Ex-contrebandier d'alcool et de clope, ce con toujours à changer de pioche de peur qu'on le chope. Et puis ils comprennent pas comment on les tient par le collet. Politicard poulet, j'ai toutes les armes que tu voulais. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard, même avec de grosses couilles en or à la fin de ce putain de scénar. C'est quelques brefs de comptoir qui rêvent de nous voir crever sous les poux à l'angle d'un de ces vieux trottoirs où l'information au noir tristement célèbre notre organisation.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord, la situation au Sénégal et le soutien français au président Macky Sall. Ensuite, la nouvelle stratégie française en Libye et ses enjeux. Les élections législatives au Sénégal sont prévues pour le 31 juillet 2022. Elles sont dominées par l'opposition entre la liste soutenant l'actuel président Macky Sall et la liste de la coalition appelée Yewi Askan Wi, dirigée par Ousmane Sonko. Ces élections se dérouleront dans le contexte d'une montée des luttes sociales et des mobilisations populaires contestant à la fois la politique intérieure et extérieure du gouvernement sénégalais. Sur le plan intérieur, il lui est reproché la dégradation de la situation économique des classes populaires et des pratiques de corruption. Sur le plan extérieur, la critique porte sur l'alignement néocolonial sur la France en général et sur les sanctions contre le Mali en particulier. Les élections législatives s'inscrivent également sur le fond d'une montée de l'opposition qu'atteste à la fois le développement des mouvements sociaux et les résultats électoraux. Les municipales de janvier 2022 voient ainsi la victoire de l'opposition à Dakar et Ziguinchor, les deux plus grandes villes du pays. Cette défaite gouvernementale survient après une campagne massive de désinformation et de diabolisation de l'opposant Ousmane Sonko. En février 2021, il fut ainsi accusé de viol, placé en garde à vue, puis relâché sous contrôle judiciaire et interdit de sortie du territoire national. Il dénonce ses poursuites comme étant, je cite, « une tentative de liquidation politique fomentée par Macky Sall ». Le résultat de cette manœuvre est à l'exact opposé des objectifs visés. Des manifestations importantes se déroulent pour exiger sa libération et des affrontements violents ont lieu dans plusieurs villes du pays entre manifestants et forces de l'ordre, avec comme bilan au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Ces manifestations populaires sont telles que le gouvernement sénégalais est contraint de libérer Ousmane Sonko, qui appelle à la poursuite des mobilisations de manière pacifique. C'est ce contexte global qui éclaire l'annonce de l'invalidation de la liste de l'opposition par le Conseil constitutionnel le 3 juin dernier. Cette annonce a bien entendu suscité la colère populaire. La manifestation prévue le jour même de cette annonce est interdite et finalement autorisée le 8 juin. La foule est au rendez-vous et la colère également. Devant ce succès populaire, il ne reste au gouvernement que de tenter une nouvelle fois la diffamation pour diviser l'opposition. Le porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye, déclare ainsi au lendemain de celle-ci, je cite, « Des rebelles venus du sud du pays ont profité de la manifestation de Yewi Askanoui à Dakar pour s'infiltrer dans la capitale. » Il fait ici référence aux indépendantistes casamançais qui ont pris le maquis depuis 1982. Ce faisant, il vise à tester et préparer l'opinion publique sénégalaise à des mesures plus radicales pour faire taire cette opposition, devenue dangereuse pour son gouvernement et pour son soutien international le plus important, l'État français. Le leader du mouvement patriotique et anti-impérialiste Guy Marius Sagna commente comme suit cette accusation. Je cite « Le premier rebelle au Sénégal s'appelle Macky Sall. Les vrais rebelles, ce sont Macky Sall, le détourneur en chef et sa bande de voleurs qui osent traiter d'autres Sénégalais de rebelles. La rébellion néocoloniale menée par le président Macky Sall n'a que trop duré. Il faut la mettre hors d'état de nuire. Le président Macky Sall, élu par des Sénégalais, mais qui donne tout à l'impérialisme, particulièrement à l'impérialisme français, est le chef des rebelles au Sénégal, car elle se rebelle contre la volonté des Sénégalais qui veulent des politiques pour les Sénégalais, des politiques de préférence nationale et panafricaine, de patriotisme économique et non, comme le fait Macky Sall, des politiques de préférence néocoloniale. » Fin de citation. Guy Marius Sagna a effectivement raison de relier la situation sénégalaise aux enjeux internationaux pour plusieurs raisons. La première raison est l'importance géostratégique de ce pays, lui conférant selon l'économiste et géographe de la Sorbonne Gérard-François Dumas, je cite, un rôle de plaque tournante dans les différents échanges entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Fin de citation. La seconde raison est historique et politique. Au moment des indépendances, la crainte d'un accès à l'indépendance de l'Afrique occidentale française ne se fasse sur une base anticoloniale du fait de la popularité de leaders anti-impérialistes de la stature de Sékou Touré et de Modibo Keïta a conduit le colonisateur à organiser la balkanisation de l'Afrique occidentale française. Il s'appuya pour ce faire sur Léopold Sédar Senghor qui accède ainsi au pouvoir avec la bénédiction de Paris. Depuis, les gouvernements successifs à Dakar ont soutenu indéfectiblement toutes les stratégies françaises en Afrique. Le Sénégal devint ainsi un des piliers les plus sûrs de la politique africaine de Paris. La troisième raison est économique, avec l'ouverture l'année prochaine de l'exploitation d'un important champ de gaz et de pétrole dans l'Atlantique. La production future est estimée à 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an en 2023 et pourrait atteindre 10 millions de tonnes en 2030. Les réserves de ce qui pourrait bien devenir un des plus grands champs gaziers d'Afrique, appelé la Grande Tortue Ahmeyim ou GTA, sont en effet estimés à 1400 milliards de mètres cubes de gaz dans les eaux maritimes mauritaniennes et sénégalaises. Nous avons souligné dans notre chronique de la semaine dernière qu'un des éléments de la stratégie états-unienne en Russie consistait à priver celle-ci du marché européen pour ses exportations d'hydrocarbures. Pour ce faire, elle propose de compenser le gaz russe par son gaz et son pétrole de schiste, complété par des approvisionnements secondaires. La décision israélienne d'exploiter illégalement une nappe libanaise entre dans cette logique. Le soutien indéfectible à Macky Sall, au Sénégal également. Celui-ci déclare à l'occasion de la crise en Ukraine, je cite, « Nous sommes prêts, nous, au Sénégal, en tout cas, à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen en gaz naturel liquéfié. » Fin de citation. On comprend mieux pourquoi la France, comme l'Union européenne, soutiennent un président de plus en plus décrié par son peuple. Alors que la Libye est plongée plus que jamais dans un chaos sans fin, Emmanuel Macron décide de recevoir à Paris une délégation de 11 personnalités originaires de la région libyenne du Fezzan, porteurs d'un projet de transformation de la Libye en une fédération à trois, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan. La délégation est menée par l'ancien Premier ministre libyen Ali Zidane de 2012 à 2014, réputé proche des intérêts français en Libye, et par Mansour Seif El Nars, ancien ambassadeur à Paris. Après avoir fait éclater le pays par la guerre de 2011, dans laquelle Sarkozy joua un rôle prédominant, après avoir soutenu le général Haftar dans son offensive militaire visant à s'emparer du pouvoir et à renverser le gouvernement d'Union nationale, reconnu pourtant officiellement par l'ONU et par le gouvernement français, Paris avance un nouveau pion, celui de la fédération. Le changement de stratégie française est lié au rapport de force militaire. Il est désormais impossible que le général Haftar puisse l'emporter militairement et le nombre de puissances impliquées militairement est tel qu'une solution militaire durable est inenvisageable. Dans les affrontements militaires en cours, se trouve ouvertement impliqué, soit en soutien à Haftar, soit en soutien au gouvernement d'Union nationale, les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Russie, la France, le Qatar, la Turquie, l'Italie, l'Union européenne et les Nations unies. La solution militaire n'étant plus possible à court terme, la solution par l'organisation d'élections nationales que propose l'ONU étant durablement entravée, Paris est amené à modifier sa stratégie en revenant à son vieil amour pour la région du Fezzan. L'économiste Asma Saïd décrit comme suit l'importance stratégique de la région. Je cite « Quand on évoque la guerre en Libye, l'attention se porte sur la Cyrénaïque à l'est, aux mains du gouvernement de Tobrouk, et sur la Tripolitaine à l'ouest, tenue par le gouvernement d'Union nationale. Au sud du pays, la région du Fezzan se retrouve oubliée, alors qu'elle constitue une zone hautement stratégique, dont le ralliement à l'un ou l'autre des belligérants pourrait se révéler déterminant dans la victoire de l'un des camps. » Fin de citation. La lutte entre grandes puissances pour contrôler cette région est ancienne. Occupée en 1943 par l'armée française, le Fezzan permet au colonialisme français de relier l'Algérie à quatre de ses colonies d'Afrique équatoriale, le Gabon, le Congo, le Tchad et la Centrafrique. La découverte de pétrole dans la région va amener le gouvernement français à se retirer militairement de la région en échange de certaines garanties qu'Asma Saïd résume comme suit, je cite. C'est la découverte en 1956 d'importants gisements de pétrole du côté d'Edjélé qui conduit les Français à réévaluer leur intérêt stratégique pour le Fezzan et à accepter de s'en retirer. Jusque-là, dans les négociations, les autorités françaises s'arc-boutaient autour de la question de leur maintien dans la région pour des raisons politico-militaires. Avec la mise à jour de ces gisements, elles vont assouplir leur position et négocier leur retrait en échange de concessions leur permettant de tirer profit des routes et de certaines infrastructures. Le Fezzan est considéré comme une zone indispensable de transit du pétrole algérien vers la métropole, au moment même où la nationalisation de la compagnie du canal de Suez, le 26 juillet 1956, menace ses approvisionnements. Fin de citation. L'intérêt géostratégique du Fezzan est renforcé par la dimension économique. Rappelons que la Libye contient les plus grosses réserves d'hydrocarbures d'Afrique et qu'elle exporte vers l'Europe 80% de sa production. Rappelons également que si le pétrole aujourd'hui exploité se trouve essentiellement en Cyrénaïque, le plus grand champ de pétrole se trouve lui au Fezzan, près de la ville d'El Sharara, dans le désert du Mourzouk. La guerre et le chaos actuel n'empêchent pas l'exploitation du pétrole. Elles rendent simplement nécessaire la sécurisation des sites et des voies d'acheminement qui sont sous-traités à des groupes armés locaux contre rémunération. Ce marché lucratif est d'ailleurs une des sources d'affrontements qui contribue à approfondir le chaos libyen. Les deux ethnies, Toubou et Touareg, s'affrontent ainsi depuis plusieurs années pour le contrôle des deux principaux sites pétroliers de la région. Comme on le voit, derrière l'apparence ethnique de ces conflits se cachent des intérêts économiques concrets dégénérant en guerre par la destruction occidentale de l'État libyen. La nouvelle stratégie française se déploie alors que les élections présidentielles prévues initialement le 24 décembre 2021, puis reportées deux jours avant la tenue du scrutin par la Haute Commission électorale au 24 janvier 2022, aient été reportées une nouvelle fois par le Parlement cette fois-ci à une date indéfinie. Une des raisons de cette annulation est l'apparition d'un candidat perturbateur non prévu, Saïd Kadhafi, le fils du colonel renversé par la guerre puis tué sauvagement. Contre toute attente des chancelleries occidentales, les sondages sondage annonçait un score de plus de 50% en sa faveur, dans un contexte d'affrontement généralisé. Celui-ci apparaissait, en effet, aux yeux de nombreux Libyens, comme le retour à l'unité nationale, comme d'ailleurs la période d'avant-guerre apparaît, pour un nombre grandissant de Libyens, comme une période de prospérité, de sécurité et de stabilité. Ces reports et annulations de l'élection présidentielle ont suscité une nouvelle crise politique et de nouveaux affrontements armés. Le Parlement a confié le gouvernement à Fathi Bachara en mars dernier, mais l'ancien chef de gouvernement Abdelhamid Beyba refuse de partir. Les affrontements armés d'une part et un mouvement de grève d'autre part ont eu comme résultat une baisse brusque de la production de près de 40%. Les syndicats libyens entendent par cette grève s'opposer à l'utilisation des revenus du pétrole libyen pour alimenter la guerre entre les deux fractions. Dans le contexte de montée du prix du pétrole lié à la guerre en Ukraine, une telle situation inquiète les puissances occidentales. L'ambassadeur états-unien à Tripoli s'en émeut comme suit, je cite, « Les États-Unis sont profondément préoccupés par la poursuite de la fermeture qui prive les Libyens de revenus conséquents et contribue à la hausse des prix, entraînant des pannes d'électricité, des problèmes d'approvisionnement en eau et des pénuries de carburant. » Fin de citation. L'impasse occidentale en Libye et ses conséquences, comme la nouvelle stratégie de Paris, n'ont bien entendu pas été jugées dignes d'intérêt par la plupart des grands médias français. Il est vrai que ces deux questions mettent en exergue que les interventions impérialistes ne sont jamais une solution pour les peuples. C'est pourquoi nos médias parlent si peu de la situation des pays où les États occidentaux ont mené des guerres après celle-ci.
Oh, Aujourd'hui, mercredi 25 septembre, c'est la Sainte Allemagne. Sainte Allemagne, la sainte patronne de tous nos ennemis héréditaires. Avant sa canonisation, qui date de l'époque où le couple franco-allemand en était à ses premiers flirts, souvenez-vous, Kohl et Mitterrand, main dans la main, shabadabada, shabadabada, ah oui, une page était tournée, on était tranquille, eh oui, Kohl n'avait pas de passé nazi, et Mitterrand, Avant la canonisation de Sainte-Allemagne, donc c'est vrai, nous avons eu maille à partir avec elle, à quatre reprises. La première fois, la première raclée, 1870, mais bon, c'était un petit peu normal, on n'avait pas encore la ligne Maginot. En 14, on a failli en venir aux mains. En 40, non, il s'est rien passé en 40. Non, sinon Papon, il serait encore en tôle. Et puis la quatrième fois, 1982, Séville, souvenez-vous, l'agression de Schumacher sur Batiston. Là, on a dépassé le point de non-retour. Mais la France, le français, c'est pardonné. La France est toute mansuétude. Et pour contenir l'esprit belliqueux du Bosch, il faut bien ça. Aujourd'hui donc, tout va mieux. Sainte-Allemagne est civile et le demeure. Un peu grâce à ses Grünen, mot allemand signifiant social-démocrate qui fume du tush. Grünen grâce auquel la courageuse politique de privatisation menée par Schröder pourra se poursuivre outre-Rhin. Eh, ça aurait pu être pire. Encore un peu, ces cons-là, ils élisaient Schumacher. Aujourd'hui, mercredi 25 septembre 2002, le soleil s'est levé, la mer était mauvaise mais la soupe était bonne. Il va se coucher et... Babacar, où es-tu? Où es-tu? Accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus.
Chez moi, y'a même plus de réveil, j'ai découvert le secret. Pour me tirer du sommeil, j'écoute le reggae. Chez moi, pas de rameur ni d'haltère à soulever. Pour faire la gymnastique, j'écoute le reggae. Moulant de problèmes en ouvrant le courrier. Pour rester bien cool, j'écoute le reggae. Les voisins s'embrouillent dans les escaliers. Je sors les enceintes et ils écoutent le reggae. Pour bien démarrer, j'écoute le reggae. Pour bien continuer, j'écoute le reggae. Pour bien terminer, j'écoute le reggae.
Et remarque, dans reggae, y'a gay.
Depuis que la vie reggae sur ma testa, et perdre le canta si toujours à la leste. Est-ce pas de l'opéra? À cause des bonnes danses, t'agradera toujours pour la peine ou la festa.
Écoute, écoute, mon boulanger qui fait le meilleur pain du quartier le sait, il faut faire la pâte en écoutant le reggae. Joe, le routier, la nuit doit rester réveillé. Sur son autoradio, il écoute le reggae. Lula, le marin, quand la mer est déchaînée, contre le mal au cœur, il écoute le reggae. C'est le facteur, distribue le courrier. Ouais, ici, en pédalant, et il écoute le reggae. La couturière pour faire l'ourlet, elle écoute le reggae. Au ballon pour bien dribbler, on écoute le reggae. La dactylo tape en rythme, et elle écoute le reggae. Écoutez pour nous.
Oh là là, tu pars en vie. Il y a des chapelles et des frontières.
Ah, ouais.
Si vous aimez le reggae, fiou de la terre entière.
sa bouche. Il au monde des cadets, lo canta sa manière. Opa, pa 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 pa, ben si la mélodie. Pa 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 pa, ben toute la famille. Mais d'une près d'une loupe, passe et tiens avec le poids. Est-ce une aigle des gueux, mais n'aura la mieux vide.
Arrête, arrête. Chez moi j'ai au moins 10 000 disques de pur reggae. J'ai un 47 tours de Marley dédicacé. J'ai tous les studios en vinyle et en CD.
Allez, j'ai Yellow Man en photo sur ma table de chambre.
En 80 j'avais les dreadlocks jusqu'au chevilles.
Allez, j'ai tué le chalice avec Bobo Zetti.
Joe Corbo m'a invité trois fois dans sa famille.
Allez,
Moi aussi Michel Delpech il m'a invité dans le Rocher.
Oh, chalice.
Mais si la mélodie.
Qu'est-ce que c'est le
Ricky? Papa, 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 papa,
c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche, comme tous les mercredis à cette heure-ci ou à peu près.
Et comme vous le savez, nous sommes une émission qui s'intéresse quand même à l'actualité sociale. Et on ne peut que signaler un événement important dans ce domaine qui s'est déroulé cette semaine. Christian, il y a eu 400 000 manifestants à Londres quand même.
Eh ben oui, 400 000 manifestants contre la guerre.
Ah non, c'était pour la chasse à cour, là, Christian.
Ah merde, j'ai cru que c'était des gens qui étaient contre la guerre.
Ah non, non.
S'ils se défoulent, après, ils auront moins envie de faire la guerre ailleurs, non, c'est pas ça?
Peut-être. Toujours est-il que Blair a des preuves, maintenant, hein, vous le savez. Tony Blair a des preuves.
Bah, hein. C'est le principal, c'est d'avoir des preuves.
C'est Sherlock Holmes. Hein,
ah, voilà, c'est
en et fait, alors, il y a Fleischer, donc, qui est un officiel américain, qui a déclaré que le dossier de Blair eh bien, correspondait à celui des États-Unis. C'est le hasard, est quand même incroyable.
Tout à fait là. Étonnant. Tout à fait étonnant.
Incroyable. Alors, les Irakiens, bah, ils ont invité les Anglais à venir, hein, les inspecteurs anglais à venir là où ils avaient les preuves. Hein. Et puis, bah, on dirait les Anglais, les Américains ont peut-être un peu peur, on dirait, des Irakiens.
Bon, peur, peur.
C'est la plus grande armée du monde, quand même.
N'allons pas jusque-là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il peut y avoir éventuellement quelques craintes de la part des États-Unis. Est-ce qu'effectivement, les Irakiens aient éventuellement des difficultés pour faire manger leurs gosses, éventuellement des difficultés pour les soigner.
Mais Blair, c'est un bon. Hein. D'abord, c'est un socialiste, hein, on le rappelle.
Ah bah ça, voilà, ça, il faut quand même rappeler que Blair, c'est un socialiste.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est George Bush. Il a dit « Monsieur Blair est un dirigeant fort et j'admire sa volonté de dire la vérité ».
Ah bah c'est un socialiste, c'est normal qu'il dise la vérité.
Bah oui.
Ah bah tiens.
Et puis venant de Bush, on peut que y croire.
Bah bien sûr, surtout un gars comme lui. Hein.
Alors dans cette affaire quand même de l'Irak, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs, peut-être très brièvement. Hein. Tony Blair, ce n'est jamais que le VRP de British Petroleum.
Ah bon?
Ah oui. George Bush, c'est le VRP peut-être de Texaco. Et quid de Jacques Chirac dans cette affaire? Eh bien, Jacques Chirac ne reste pas quand même inactif dans ce monde, puisqu'il a envoyé des troupes en Côte d'Ivoire.
Ah bah oui, la Côte d'Ivoire.
Et Jacques Chirac, c'est donc le VRP de Nesquik.
Bah oui, puisque la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao.
Voilà. Hein. Alors, il a envoyé des troupes notamment pour nos ressortissants, pour aider nos ressortissants. Il faut rappeler quand même que l'économie de la Côte d'Ivoire, eh bien, est détenue à 38% par des entreprises françaises, n'est-ce pas? Et qu'il y a notamment beaucoup de banques françaises qui ont des intérêts là-bas.
C'est ça l'aide aux pays sous-développés.
Voilà. Et nos ressortissants, c'est donc cela.
C'est-à-dire, c'est les banques.
Notez que les Américains, ils n'ont pas eu confiance envers les militaires français.